France Inter. 10.
Mardi 12 mars, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, pour ou contre le soutien à l'Ukraine.
C'est un peu en ces termes que les députés vont débattre cet après-midi sur la stratégie d'aide à Kiev, histoire de clarifier les positions politiques à quelques mois des européennes. Un accord trouvé cette nuit sur la Corse entre gouvernement et élus, nouvelle étape vers l'autonomie. La protection civile cherche encore des bénévoles pour les JO et puis un Don Juan revisité au théâtre de Villeurbanne.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Ce n'est pas un sondage comme les autres, mais une très vaste étude menée auprès de 12 000 personnes pendant des mois par le CEVIPOF, l'Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès et Ipsos. Une photographie de l'opinion française à 3 mois des élections européennes qui donne Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, à 31% d'intention de vote. Une majorité présidentielle asphyxiée, une gauche émiettée. Les jeux sont-ils joués? Question à Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. 9h20, Léa Salamé reçoit la styliste Marine Serre.
France Inter.
C'est le sujet que le président de la République veut mettre sur la table dans cette campagne pour les élections européennes. L'Ukraine. Les députés vont écouter cet après-midi le Premier ministre détailler l'accord franco-ukrainien signé le 16 février, 3 milliards d'euros d'aide à Kiev et la stratégie militaire de la France. Puis ils vont voter pour ou contre, un vote symbolique non contraignant, avec le risque d'un discours politique simpliste. Voter contre, ce sera être pro-Poutine. Voter pour, c'est soutenir l'Ukraine. Laurence Perron, l'exécutif veut en fait pousser les oppositions à clarifier leur ligne.
Les communistes sont les seuls à avoir clairement annoncé qu'il voterait contre. Chez les Insoumis, le vote fait toutefois assez peu de doutes. Le député Arnaud Le Gall.
On ne nous demande pas de voter sur un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. On nous demande de cautionner l'escalade verbale qui précède parfois les escalades militaires d'un président de la République en roue libre qui a eu des propos irresponsables. On ne peut pas donner la caution de la représentation nationale à cette dérive.
Écologistes et socialistes jugeront sur pièce. Anna Pic, députée socialiste de la commission défense.
Je crois qu'on ne peut pas utiliser ce thème comme un enjeu électoral. C'est le sérieux de la situation qui nous y invite.
La droite LR est sur une ligne proche. La ligne rouge, c'est l'engagement des troupes françaises. Le RN entend ne pas se faire enfermer dans le piège du procès en russophilie. Jean-Philippe Tanguy.
De toute façon, nous ne voterons pas, en fait, selon ce que va raconter le Premier ministre, sauf si vraiment il franchit des choses insupportables ou dit n'importe quoi. Nous voterons pour l'intérêt de la France.
Clarifier les positions, quitte à perdre le vote, la députée Renaissance, Anne Genetet, assume.
Pour trouver un sujet sur lequel 100% d'une population, d'une classe politique dans un pays au monde serait entièrement d'accord, ça s'appelle une dictature.
Tout dépendra en définitive de la manière dont le Premier ministre va pousser les curseurs pour s'allier ou s'aliéner les oppositions.
Les sénateurs débattront et voteront, eux, demain. Ce matin, dans une interview au journal Le Monde et à BFM TV, le président ukrainien affirme que tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. Volodymyr Zelensky ajoute que la situation sur le front est, je cite, « bien meilleure que durant les 3 derniers mois ». En Russie, cette nuit, 2 dépôts de carburant ont été attaqués par des drones. Les installations sont en feu. Et c'est donc dans ce contexte que Vladimir Poutine se présente devant les électeurs russes à la fin de la semaine, élection présidentielle à partir de vendredi. Aucun doute sur la victoire du chef du Kremlin. Seul inconnu dans ce scrutin joué d'avance, son score. Personne à Moscou n'envisage qu'il soit inférieur aux 76% qu'il avait fait en 2018. Vladimir Poutine s'apprête donc à repartir pour 6 ans de plus, lui qui est au pouvoir presque sans discontinuer depuis le 31 décembre 1999. Et tout cela sans faire campagne, absolument pas, Sylvain Tronchet.
En 2018, on avait beaucoup raillé le service minimum de Vladimir Poutine en campagne. Le président candidat n'avait participé qu'à 2 meetings à quelques jours de l'échéance et encore, il n'avait parlé que 2 minutes à Sébastopol et 3 minutes au stade Loujniki à Moscou. Cette année, il fera encore moins. Aucun meeting de campagne, aucun débat télévisé, ne cherchez pas les affiches sur les murs de Moscou, les militants qui distribuent des tracts, il n'y en a pas. Ne cherchez pas non plus le programme, le candidat Poutine n'en a pas. Il faut se référer au discours devant les 2 assemblées il y a 2 semaines où le président avait promis des milliards de roubles de projets, de subventions et de baisses d'impôts. La campagne de Vladimir Poutine se résume à une évidence qu'exprime clairement son clip électoral diffusé à la télévision.
Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность?
Qui assurera le développement? Qui garantira la stabilité? Qui nous unit?
Только в нем.
En qui avez-vous confiance? En lui seul.
Vladimir Poutine serait donc le seul à même de diriger la Russie. Un axiome de la politique russe que personne ne vient contredire, pas même ses trois concurrents qui débattent entre eux à la télévision. Sur les réseaux sociaux, on annonce déjà un meeting au stade Loujniki le 18 mars, le lendemain du premier tour, avec la participation du président Vladimir Poutine. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
À l'étranger encore, le premier ministre haïtien vient d'annoncer sa démission, ce qui ouvre la voie à une transition pacifique du pouvoir, selon les pays des Caraïbes, réunis en urgence depuis hier en Jamaïque. Haïti qui s'enfonce dans le chaos, aux mains de gangs armés, la population est affamée, l'aéroport ne fonctionne plus, les écoles de Port-au-Prince fermées, les hôpitaux sont au ralenti.
Il est 7h06, une marche de plus, Anaïs, vers l'autonomie de la Corse.
Deux semaines après la précédente réunion au ministère de l'Intérieur, nouvelle rencontre avec les élus corses hier soir à Beauvau et nouvelle fumée blanche cette nuit. Gouvernement et élus sont tombés d'accord pour écrire un texte sur la reconnaissance d'un statut d'autonomie à Gatmayué.
Les échanges ont duré près de 5 heures, mais ils ont abouti à cette écriture constitutionnelle qui prévoit la reconnaissance du statut d'autonomie de la Corse au sein de la République. Le document donne aussi à l'île de nouveaux pouvoirs qui font que les normes et les lois françaises pourront être adaptées à la Corse dans un cadre qui sera défini par la loi organique, et cette compétence législative inquiète plusieurs élus de l'opposition sur l'île. Gérald Darmanin, lui, se félicite d'avoir obtenu ce consensus sans franchir les lignes rouge du gouvernement. L'accord, en effet, ne comporte ni la mention de peuple, ni le statut de résident, ni la co-officialité de la langue corse. Plusieurs étapes encore avant que n'aboutisse la réforme constitutionnelle. Un vote à l'Assemblée de Corse, puis par les deux chambres du Parlement, et une adoption par le Congrès à la majorité des 3/5.
Le gouvernement va tenter finalement ce soir de faire voter par l'Assemblée son projet controversé de fusion de l'ASN, le gendarme du nucléaire, avec l'IRSN, les experts du secteur. Hier soir, les discussions avaient duré trop longtemps. L'examen du projet de loi reprend donc ce soir. Ni les syndicats, ni la gauche, ni les experts, ni les associations environnementales, ni même certains députés de la majorité n'y sont favorables. La procédure est très rare. La famille d'une victime d'un féminicide attaque l'État français pour faute lourde. C'est une information France Inter. La jeune femme avait été tuée par son ex-conjoint à Bordeaux alors qu'elle avait alerté sur sa situation. Explication dans une demi-heure. Où sont les bras pour assurer la logistique et le déroulé des Jeux Olympiques? Les organisateurs sont en plein recrutement, mais la protection civile aussi. L'association d'utilité publique qui sera présente sur 60% des sites un peu partout en France. Une antenne a même été créée spécialement à Paris pour engager de nouveaux bénévoles, Victor Vasseur.
Fin juillet, Christine va revêtir le polo orange et bleu marine de la protection civile. Une première pour cette consultante de 49 ans.
J'étais la première à râler contre les JO, et en bonne parisienne, quoi, en bonne française parisienne. Et à un moment, je me suis dit, j'aime ma ville, j'ai envie que ça se passe bien, donc à moi aussi de faire quelque chose pour que ça se passe bien, et donc j'ai cherché à m'engager.
Cette future bénévole a commencé sa formation, comme Rémi, 41 ans, fou de sport et impatient d'être au plus près de l'événement.
Pour moi, les JO, c'est une chance incroyable d'avoir ça à Paris. Donc j'avais candidaté pour être bénévole avec le COJO directement, mais les missions, je trouvais, étaient un petit peu des missions d'accueil, et je voulais être quelque part un peu plus dans l'action, me rapprocher du terrain.
1000 bénévoles seront mobilisés chaque jour par l'association à Paris, mais aussi à Lille, Bordeaux, Châteauroux, encore Tahiti. Fabrice Feugas est chargé de constituer cette réserve opérationnelle pour la protection civile.
On va dire que pour l'instant, c'est quand même 2/3 de néophytes, hein, qui sont vraiment des profils très très nouveaux, qui ont été attirés par les Jeux Olympiques et par le secourisme, qui se sont dit, toujours dans un coin de la tête, un jour ça m'intéresserait, et là en fait ils se disent, allez, c'est l'occasion, je franchis le cap, quoi.
L'association continue de recruter en vue des JO, et elle cherche encore une centaine de bénévoles pour sa section parisienne.
Et pour plus d'informations, pour candidater, rendez-vous sur le site de France Inter. Eux disent manquer de temps et de moyens, les agents du pôle contact de l'INSEE en grève aujourd'hui, eux qui sont censés répondre au public et aux entreprises. Mais depuis que le gouvernement a lancé un guichet unique, les sollicitations explosent. Fin février, plus de 3700 demandes par mail étaient toujours en attente. Les agents de l'INSEE demandent un retour aux plages horaires habituelles pour l'accueil téléphonique et des moyens à la hauteur de la charge de travail qui augmente.
Il est 7h10, les professionnels de l'immobilier attendent beaucoup du marché international qui s'ouvre aujourd'hui.
Oui, le MIPIM à Cannes Bretagne qui réunit des milliers de participants, peu ou prou tous confrontés aux mêmes problèmes, du moins en Europe. Hausse du coût des matériaux, difficulté d'accès aux prêts. En France, la production de logements neufs s'est effondrée de moitié l'an dernier, alors que l'accès au logement est de plus en plus difficile dans les villes. Le ministre du Logement doit faire des annonces à la mi-journée, Mathilde Huimy, pour un secteur qui ne voit pas de sortie de crise.
Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, jongle avec les graphiques.
Une année normale, nous faisons 165 000 logements. L'année Covid, on fait 132 000 et on se demande ce qui se passe. Et 2023, 94 000.
Il vient de créer, catastropher, une nouvelle statistique.
Les retraits, c'était quelque chose qu'on ne savait pas, mais pour nous, c'est tout nouveau. On préfère abandonner des opérations puisque ça ne se vend pas assez vite.
Le marché du logement neuf continue de s'effondrer. Plus de demandes, plus de commandes. C'est toute la chaîne de l'ouvrier au notaire qui est menacée à terme, alerte Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment.
En 2025, nous aurons 300 000 salariés de toute la filière construction, immobilier et logement qui sont en danger parce que l'activité ne sera pas là.
Au marché de l'immobilier de Cannes, 20 000 participants, 90 pays vont tenter de voir le positif au-delà du marasme. Il y a de nouveaux marchés à conquérir, plaide le directeur du salon, Nicolas Kozubek.
La construction hors site modulaire est sans doute une solution qu'il faut regarder de près. Après, on parle aussi évidemment reconversion, pouvoir faire du logement là où on faisait autre chose par avant. C'est une des pistes qui est regardée. Il faut continuer à creuser, évidemment.
Les acteurs du marché français en appellent, eux, au gouvernement pour soulager le secteur.
Les logements, par ailleurs, majoritairement très inadaptés au changement climatique, selon un rapport de la Cour des comptes ce matin. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur le changement de mode de chauffage et le confort d'hiver, mais pas assez sur les pics de chaleur. On en parle dans le journal de 7h30. En tennis, surprise au tournoi d'Indian Wells avec l'élimination dès le troisième tour du numéro 1 mondial Novak Djokovic, sorti par le jeune Italien de 20 ans, Luca Nardi. Enfin, c'est une autre histoire d'homme et de conquête, l'inépuisable Don Juan de Molière, revisité cette fois par Macha Makaïev, qui déplace l'action de la pièce au XVIIIe siècle, le siècle de la transgression, pour en faire, Stéphane Capron, un Don Juan tout en nuances.
On croit tout connaître de la pièce de Molière tant elle a été vue et montée, et pourtant à chaque lecture, on découvre une nouvelle facette de l'œuvre. Ici, Macha Makaïev fait de Don Juan un prédateur sexuel, mais elle se livre à une analyse beaucoup plus profonde du personnage. Elle va gratter dans son vécu pour expliquer ce qu'il est devenu adulte. La scène avec son père est révélatrice de beaucoup de souffrances enfouies.
Il y a une faille chez cet être, que c'est pas l'homme maudit du début à la fin. C'est quelqu'un qui a eu une enfance, c'est quelqu'un qui a eu un père qui n'a pas supporté sa simple existence. Et ça, ça se voit encore aujourd'hui. Ces pères qui tuent leur fils psychiquement et qui tue leur fils dans une espèce de rivalité fantasmée. Et donc le père étant la loi, Don Juan se met à transgresser toutes les lois.
Comme elle l'avait fait pour Tartuffe, Macha Makaïev a confié le rôle-titre à Xavier Gallet.
Petit à petit, on va gratter derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le monstre? Il y a un humain, il y a des causes, il y a des complexités, il y a des nuances à l'intérieur de l'emprise et de l'aspect de prédation. Mais il y a aussi des fêlures, il y a beaucoup de choses et j'aime bien.
Macha Makaïev fait de son Don Juan une œuvre baroque, tout en clair-obscur, et contrairement à d'autres productions, on retrouve aussi ici les ressorts de comédie voulus par Molière.
Don Juan au TNP de Villeurbanne, c'est jusqu'au 22 mars, et puis ce sera ensuite à Paris, à l'Odéon.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le Zoom aujourd'hui avec les réfugiés climatiques à Saintes, en Charente-Maritime, obligés de fuir les inondations.